Europe 1 Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
18h34 jusqu'à 19h, les débats de panorama sur Europe 1. On est tombé bas, très bas. Ce que vous allez entendre est totalement sidérant. Les jeunes de 16 à 24 ans ont du mal à dater des grands moments de l'histoire que l'on apprend même parfois dès le CP ou le CE1, comme la Révolution française, la chute du mur de Berlin, l'abolition de la peine de mort, la Shoah. Alors là, on ne connaît pas. On ne sait pas ce que c'est que la Shoah. Bonsoir aux invités. Anne Coffinier, bonsoir.
Bonsoir Pierre de Villeneuve.
De l'association Créer son école et de la fondation Kairos pour l'innovation éducative. Bonsoir Dimitri Casali.
Bonsoir.
Auteur dernièrement de Ces statues que l'on abat, également le nouveau manuel d'histoire publié à la fondation Aristote, parce que en plus de vos livres entre guillemets classiques, vous faites des manuels d'histoire pour les enfants, pour donner de l'appétence quand même à cette histoire qui nous qui fonde la civilisation
française en particulier. Ouais.
Alors d'abord, je voudrais quand même puisque ça a été la polémique de ces derniers jours, que vous entendiez, enfin il n'y en a pas eu qu'une seule, mais que vous entendiez Madame Oudéa Castéra, nouvelle ministre de l'Éducation nationale. Premier déplacement, première sortie remarquée. Nous sommes à Andrézy, collège Saint-Exupéry avant-hier. Un journaliste de Mediapart demande à la ministre pourquoi elle scolarise ses enfants à Stanislas, qui est une école catholique privée dans le 6e arrondissement de Paris. Sous-entendu, bien sûr, pourquoi pas l'école publique. Voilà ce qu'elle répond.
La frustration de ses parents, mon mari et moi, qui avons vu des paquets d'heures qui n'étaient pas sérieusement remplacés. Et à un moment, on en a eu marre. Comme des centaines de milliers de familles qui, à un moment, ont fait un choix, voilà, d'aller chercher une solution différente. Et depuis, de manière continue, nous nous assurons que nos enfants sont non seulement bien formés, et qu'ils sont heureux, qu'ils se sentent en sécurité. Et c'est le cas pour mes trois petits garçons qui sont là-bas.
En sécurité au collège Stanislas, Anne Coffinier, quelle réaction là-dessus ?
On peut voir une maladresse. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ça. C'est que finalement, ça permet de mettre les pieds dans le plat et de sortir de l'hypocrisie. C'est ça qui est le plus important au-delà de la polémique. Je sais pas si c'est ce qu'elle a voulu faire, mais en tout cas,
elle l'a fait. Oui.
Et c'est peut-être temps de sortir de cette espèce de vaste blague. Oh mon Dieu, quelle horreur ! Le ministre a son enfant dans le privé, mais comme tous.
Tous les ministres.
Tous les ministres.
Ouais.
Alors voilà, prenons les choses à bras le corps.
Est-ce qu'elle voulait pas dire de manière... On va pas se mentir, hein, comme disent les jeunes, on va pas se mentir. C'est le grand truc qui revient, ça d'ailleurs. Hein, cette
elle
petite
a dit
incise.
D'ailleurs.
Ah bon, elle dit on va pas se mentir. Bah elle aussi, voilà, ça déteint, c'est comme un fléau. Le on va pas se mentir, c'est le nouveau en même temps. Est-ce qu'elle a pas voulu, par une maladresse, dire moi ce que je voudrais, c'est que l'école publique soit au niveau de Stanislas. Moi ce que dans mon mandat, ce que je voudrais faire. Dimitri Casali,
l'école ne serait pas attaquée, vous savez, pour propos homophobes et pour l'avortement, puisque l'ancien ministre Papendiaï a demandé une enquête sur le collège Stanislas.
Enfin, c'est Papendiaï.
Papendiaï, ouais. Et du coup, vraiment... Non, pour moi, elle est quand même le produit de cette Moi, ça fait 10 ans que je combats, que je dis que la crise de notre société est avant tout une crise de l'éducation, et elle est due essentiellement aux technocrates de l'éducation nationale.
Mais on elle n'a rien à voir avec l'éducation nationale, Madame Oudéa Castéra.
Elle est issue aussi, elle était ministre, je veux dire, cette élite. Ces élites politiques...
Et vous la mettez dedans.
Ah oui, tout à fait, bien sûr. Qui gouvernent la France depuis, en particulier depuis 2016.
Ce qu'on appelle l'establishment, en fait.
L'establishment. Et les technocrates...
En bon français.
Les technocrates de l'éducation nationale sont alliés aux fameux pédagogistes gauchos-bobos qui ont...
Oui, mais elle n'en est pas. Alors, on peut pas, là,
qui ont vraiment...
pour le coup, on ne peut pas dire que c'est une technocrate d'éducation nationale.
Non,
c'est pas son cas.
Elle était plutôt
issue.
Enfin, on sait que c'est une amie.
De la promotion Macron.
Que c'est une amie du président, voilà.
Et
c'est ce que je veux dire.
À mon avis, elle avait déjà fort affaire avec les JO. Et si le Premier ministre lui a donné ce poste, c'est certainement qu'il veut s'assurer qu'il y ait une continuité absolue avec le programme qu'il a indiqué en décembre. Et que ça soit donc une application de ce programme qui lui-même s'inscrit dans le programme Macron.
Bon, alors voilà ce qu'on disait sur Amélie Oudéa Castéra. Voyons maintenant cette étude Citerrand dont je vous parlais, les jeunes et l'histoire, ça fait 12. Ces jeunes, les voilà au micro d'Europe 1 et de CNews à la sortie de leur lycée.
Le 11 novembre, c'est la prise de la Bastille.
8 mai, c'est pas en 1945. Je crois que c'est l'Allemagne, ils ont gagné... Ils ont gagné une bataille, non ? C'est la victoire des nazis sur... Après, je sais plus c'était contre qui. Mais je sais que c'était la victoire des nazis, mais je sais pas contre qui.
Le 8 mai.
Truc. Comment dire, ça n'a pas un rapport avec le syndicat et tout, quelque chose comme ça ? La rave du Vélif, je sais pas.
La rafle du quoi ?
Du Veldiv.
La rafle du Veldiv, ça, je sais pas.
La rafle du Veniv, la rafle du Veniv, je saurais pas vous dire.
C'est rafle du Veldiv, c'est les nazis qui ont tué plein de juifs pendant en 1939.
La rafle du Veldiv, c'est peut-être un événement qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale.
La rafle du... C'est quoi ? Veldiv.
La rafle du Veldiv.
La rafle du...
La rafle du Veldiv.
La rafle du Veldiv.
Vous savez ce que c'est ?
Je ne connais pas.
Voilà, Capucine Patouillet, comment est-ce que est enseignée aujourd'hui l'histoire dans le parcours scolaire ?
Alors, de 6 à 8 ans, les enfants ne suivent pas de cours d'histoire à proprement parler. Il s'agit seulement de leur apprendre à appréhender l'espace et le temps au travers d'un module qu'on appelle « Découverte du monde ». C'est en CM1 qu'on commence à avoir les premières leçons d'histoire avec des thèmes comme avant la France, pardon, la monarchie française et la période Révolution française puis l'Empire. En CM2, on passe à l'apprentissage du 19e siècle, l'âge industriel et le 20e siècle entre les guerres et la construction de l'européenne en CM2. Après une consolidation des acquis en 6e, le programme devient beaucoup plus vaste et thématisé avec chrétienté et islam, découverte de l'Occident féodal, transformation de l'Europe au 16e et 17e siècle ou encore l'Europe et le monde au 19e en 4e ou le monde depuis 1945 en 3e. Au lycée, les thèmes du programme deviennent davantage pluridisciplinaires avec des intitulés comme « La France dans l'Europe des nationalités politiques et sociétés 1848-1871 » ou « La multiplication des acteurs internationaux dans un monde bipolaire de 1945 à 1970 », des intitulés qui se rapprochent de ceux d'un module d'histoire à la fac. Je demande à Dimitri Cazaï de me confirmer, mais dans mes souvenirs, c'était ça. En août dernier, le président a plaidé pour une approche plus chronologique de l'enseignement de l'histoire, propos qui ont fait bondir l'association des professeurs d'histoire et de géographie. Sauf que face à des programmes trop lourds et toujours moins de temps pour les enseigner, d'autres comme Yanis Roder ont approuvé Emmanuel Macron dans son ambition de refonder les programmes. Mais à quel prix ? C'est à vous d'en débattre.
Alors on en avait parlé un peu, merci Capucine, on en avait parlé un peu il n'y a pas très longtemps avec vous Dimitri Cazaï, et on s'était demandé dans cette émission qui
est responsable.
Qui est responsable et surtout c'est quoi l'espèce de microscopique groupe de gens qui se réunissent et qui décident pour la France entière, le programme scolaire, ça va être ça.
Ah, c'est tout à fait ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le problème de l'enseignement de l'histoire, c'est il y a deux problèmes, deux facteurs. Un facteur avant tout, on va en parler pédagogique, hein, on a commencé à en parler sur la méthode, sur les programmes, mais aussi un programme idéologique. Un grave programme avec une volonté, enfin ça on va en parler ensuite peut-être. Mais et c'est tenu par un petit groupe de technocrates de l'éducation nationale qui ne se renouvellent pas depuis 20 ans, qui sont toujours au ministère de l'éducation
nationale.
Mais ils
ne sont pas nombreux, en fait. Ils sont au-dessus des rectorats, ils sont au-dessus des ministères.
Voilà, il y a M. Dubé, il y a M. Moi, j'hésite pas.
Allez,
à citer, Philippe Mérieux, qui ont complètement désacralisé l'enseignement d'histoire, qui était quand même une passion française. Mmh. Il faut dire que l'école française, replaçons-le dans le contexte, était une des meilleures du monde pendant 150 ans. Et aujourd'hui, en 2023, nous sommes 26e et 29e pour la compréhension de l'écrit, selon le dernier classement PISA. Donc on voit bien que c'est un effondrement, un naufrage total.
Anne Coffinier.
Ah, sur le fond, je suis d'accord, mais par contre, pour être précis, aujourd'hui, c'est le Conseil supérieur des programmes qui.
Mais qu'est-ce que
propose...
c'est que ce Conseil supérieur des programmes ?
Le Conseil supérieur des programmes, c'est pas que des technocrates, hein, c'est à la fois des élus. Par exemple, des inspecteurs généraux, des professeurs d'université, des chercheurs, donc c'est assez bien conçu. Et actuellement, je crois qu'ils sont 7.
Ils sont 7
Oui, mais c'est un travail, mais ce qui compte...
Je vais en parler de Michel Lussault, l'ancien voilà. président du Conseil supérieur des programmes, qui a fait passer la réforme Najat Vallaud-Belkacem, a déclaré devant le Sénat qu'il était absolument interdit, inconvenant aujourd'hui, de prononcer le mot « nation » et « patrie ». On en est là.
Bon. Et donc, ce conseil supérieur des programmes, en fait, il travaille sur la recommandation du président et c'est le président de la République qui tranche. Donc, c'est vraiment une instance archi-politique.
Bon.
Hein, ça, c'est vraiment très
c'est
important.
C'est lui ou c'est les services du président de la République.
Quand même, ce type de sujet, ça remonte extraordinairement haut.
Et est-ce que c'est intuitu personnel, c'est-à-dire qu'il y a certains présidents de la République qui sont quand même plus actifs que d'autres sur...
Ils sont tous actifs là-dessus.
D'accord.
C'est vraiment essentiel. Et il y a eu des changements assez importants, mais le plus intéressant, c'est de remonter au vieux programme Je me suis dit, tiens, je vais prendre le programme de 1945.
Ah, très bien.
1945, ça jargonne pas. C'est quelques pages. Et on voit très bien que, par exemple, pour le primaire, parce que le primaire, ça dit tout sur l'esprit de ce qu'on va faire. Mmh. Et on voit bien que, par exemple, tout de suite, il y a une idée d'enracinement et de grandes figures. Ouais. On demande quoi ? On demande des grandes figures, les épisodes les plus marquants, et on demande d'essayer de trouver des ressources dans la commune.
Ouais.
Hein, c'est concret et c'est des personnes. Parce qu'on sait que quand les enfants sont petits, ils ne retiennent que des personnes.
Bien sûr.
Et plus on désincarne l'histoire, plus c'est des mouvements transnationaux, etc.
Merci.
Plus les enfants ne retiennent rien du tout. Et en 45, bah, ils vont droit au but. Hein, et ils disent, voilà, qu'est-ce qu'on va étudier ? Et c'est quasiment que des figures.
Mmh. Voilà.
Et des figures qu'on trouverait peut-être caricaturales, mais Vercingétorix, Clovis, la Croisade, Saint-Louis, la guerre de Cent Ans, Charles V, du déclin, Gudimpère, Bayard François Ier, un château de la Loire, Michel de Hôpital, la Saint-Barthélemy, Henri IV et Sully, Richelieu, Saint-Vincent de Paul, etc. etc.
Bon, donc, ça a l'air basique, ça a l'air normal. Est-ce que je peux prononcer le mot normal ? Mais où est la normalité ou l'anormalité dans tout ça, en fait ?
Et aujourd'hui, ça, c'est moi, c'est les programmes que j'aime. Vous savez, j'ai été beaucoup critiqué pour être un chantre de l'histoire lavicienne. C'est effectivement cette histoire de la Troisième République qui se base sur un récit national solide, ce que je prêche, équilibré et fédérateur, qui réconcilie tous les Français. C'était ça l'idée d'Ernest Lavis.
Alors Dimitri, je serais content si je vous cite Ernest Lavis, puisque c'est quand même extraordinaire.
Oui,
plus personne n'oserait dire ça.
Ah non,
tu dois aimer la France parce que la nature l'a faite belle et parce que l'histoire l'a faite grande.
Mmh.
Évidemment, on n'est pas du tout là-dedans.
Voilà. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé entre 1945 et 2024 ?
Il y a eu mai 68, d'abord, avec une réduction en 69 de 6 heures de moins de scolarisation pour le primaire et le collège. Et c'est effectivement, c'était pas le français ni les maths qu'on faisait, mais effectivement l'histoire et la géographie. Donc déjà, il y a eu cette baisse de l'après 68. Et enfin, surtout, on est venu dans les fameux pédagogistes qui pour eux, l'excellence et la méritocratie républicaine doit cesser. C'est à l'enfant, à l'élève, disent-ils, de créer lui-même son savoir, son propre savoir. Vous savez, c'est ces nouvelles méthodes expérimentales. Donc ça donne absolument n'importe quoi, un refus de la chronologie, un refus des grands personnages, un refus de raconter une histoire. L'histoire, depuis Hérodote, c'est quand même le premier livre d'histoire, c'était Hérodote. Historia et historiae en grec, ça voulait dire des histoires, raconter une histoire. Et aujourd'hui, il n'y a plus aucun récit continu. Ce sont des commentaires de documents, si vous préférez, en classe. Ils font un commentaire d'une image, d'une charte du Moyen-Âge, donnant l'affranchissement des serfs, par exemple, sans aucune continuité. Ils ne connaissent ni Saint-Louis, ni Philippe IV le Bel. Il faut surtout, d'après les pédagogistes, gommer avant tout les racines chrétiennes de la France. Ça, je n'hésite pas à le dire. C'est très clair dans le programme de Najat Vallaud-Belkacem de 2015, qui est toujours opérationnel aujourd'hui en 2024.
Oui. Hein. Il n'a pas changé
depuis. Alors que Blanquer, il faut lui rendre grâce, a quand même commencé à réformer le lycée et le programme d'histoire de lycée
alors,
est un peu mieux.
Pour en revenir à la polémique Oudéa-Castéra, quelle marge de manœuvre ont les écoles privées sous contrat ? Est-ce qu'ils peuvent corriger un peu le programme ?
Aucune. Mais on revient souvent sur cette histoire ultra politique depuis grosso modo les années 80, jusque dans les années 80. En réalité, on enseignait l'histoire sans grand drame. Il y a eu, effectivement, dans les années 20, l'histoire des annales qui a pas mal changé la vision des choses. Mais personne ne s'occupait, ne se préoccupait d'avoir une utilisation de l'histoire des annales, qui était quand même un mouvement historiographique, dans l'histoire concrète des enfants. C'était une idée qui aurait paru complètement décousue. Ce qui est fou à notre époque, c'est qu'on veut enseigner l'histoire comme on devrait l'enseigner, ou comme on l'enseigne,
à l'université. Tout à fait.
Et donc, c'est ça qui est complètement absurde. Mais derrière, il y a une bataille de vision de ce qu'est l'histoire et de ce qu'on veut faire politiquement. Et il ne faut quand même pas se cacher derrière son petit doigt. Donc, d'un côté, il y a une histoire qui sert à forger une identité, un vivre ensemble, un patriotisme, d'accord ? Et à l'américaine, un patriotisme, c'est-à-dire pourquoi je suis français et fier d'être français et pourquoi ça vaut la peine de s'intégrer à la France. Ça, c'est une certaine vision. Et de l'autre côté, il y a une vision tout à fait différente qui serait par exemple celle de Laurence de Coq, hein, qui a écrit d'abondants ouvrages sur la question, qui est de dire En fait, il faut avoir un rapport critique à l'histoire. Il s'agit de montrer comment on fabrique l'histoire. Et donc, il faut que les enfants se rendent compte que c'est un enjeu de pouvoir, que ce sont toujours les vainqueurs qui écrivent l'histoire, et qu'il faut faire une approche critique de l'histoire. Mmh. Et tous les programmes actuels, mmh, avec l'analyse des documents dont parlait Dimitri Casali, se réfèrent à cette vision de l'histoire, ah oui, oui, qui est une histoire où on vous transforme
donc
en critique.
Donc on est méfiant dès le départ sur des faits.
Et c'est intéressant,
exactement,
parce que quand vous
c'est
regardez...
ça qui est dément.
Et surtout,
excuse-moi de te, oui, couper, t'as oublié quelque chose de fondamental qui est dans les instructions officielles, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne veut plus former à la citoyenneté française. On ne veut plus former des citoyens français.
On essaye de le faire via le SNU.
Non, c'est marqué, on veut former des citoyens du monde. Ah. Des citoyens du monde, c'est-à-dire de nulle part. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sent bien chez les jeunes d'aujourd'hui, ce vide spirituel, ils ne sont pas du tout habités par cet amour de la patrie,
oui,
et c'est très grave avec les nouveaux arrivants.
On peut être citoyen du monde pour défendre par exemple la planète, parce que c'est un enjeu universel, mais on peut être citoyen français. Et j'allais vous dire, on est quand même, moi qui ne suis pas que français, on a des choses à apprendre en histoire. L'histoire de France par rapport à l'histoire de certains autres pays, je ne suis pas en train de dénigrer. Ah
ben, pour moi, c'est la plus belle qui existe.
Si on devait apprendre tous les faits historiques depuis le commencement de la France...
Pierre, tu soulignes.
Il faudrait apprendre pendant 40 ans.
Mais la technique actuelle, il faut faire attention. La technique actuelle, elle est chronologique. On ne peut pas dire que ce n'est pas chronologique, ça c'est vrai. Mais le transversal, le thématique...
Ça marche.
Rentre à peu près partout et trouble la conscience chronologique. Et la deuxième chose,
soyez galants.
Place aux femmes, Dimitri. Et donc, la deuxième chose qui est très importante aussi, c'est que sans arrêt, on veut faire des ponts. On veut montrer que ce sont les contacts qui nous constituent dans ce que nous sommes. Donc, sans arrêt, bien sûr, l'immigration, ouais, bien sûr, le contact avec l'islam. Mais vous prenez le programme de 6e. C'est un programme qu'on a tous connu, qui n'a pas beaucoup changé en soi. C'est-à-dire la préhistoire et ensuite l'Antiquité. Déjà, l'Antiquité, c'est extraordinairement compliqué, parce que si on commence avec les Assyriens, les Babyloniens, c'est quand même les Égyptiens, etc.
On sort avec une thèse.
Eh bien, qu'est-ce qu'on a rajouté? On a rajouté aussi le contact avec la route de la soie et le contact avec la Chine des Han.
Oui.
Qu'est-ce que vous voulez faire avec la Chine des Han quand déjà vous mélangez l'histoire grecque,
les Mérovingiens, les
Carolingiens, si vous voulez. Et surtout, c'est toujours cette idée qu'on est formé par le contact et ce n'est que par l'enrichissement extérieur qu'on est ce qu'on est. Et d'ailleurs, on est avant tout un lieu complexe. Le mot complexe apparaît sans arrêt dans les explications de programme. Montrer la complexité.
Ah, c'est-à-dire qu'on décourage.
Montrer le contact.
On décourage. Mmh.
C'est-à-dire qu'on veut montrer que tout est une question de perspective, de fécondation croisée, et que c'est plus compliqué qu'on vous dit.
Pour Dimitri abonder Casali. Dans ton sens, pour être complémentaire avec toi, ouais, effectivement, tu as oublié de citer les grands...
Il tutoie tout le monde, il tutoie le monde. Dimitri, il est universel, c'est-à-dire qu'il a une idée française, mais voilà.
Les grandes thématiques dont tu parlais tout à l'heure, effectivement, ce sont avant tout des grandes thématiques compassionnelles. C'est-à-dire qu'en dehors des grands personnages, du récit, de la chronologie, aujourd'hui, ce sont des thématiques compassionnelles, c'est-à-dire l'antiracisme, l'altermondialisme, le phénomène des migrations, que tu retrouves dans tous les programmes, du CM1 à la terminale, par exemple, en 5e, ils te font, au lieu d'apprendre les cathédrales qui ont été gommées et supprimées par Najat Vallaud-Belkacem, ils te font apprendre la déforestation écologique au Moyen-Âge. Voyez-vous.
D'ailleurs, du coup, vous avez pris le problème à bras-le-corps, Dimitri Casali, parce que je le disais, vous faites, c'est aux éditions Centurion, des manuels, en fait, j'allais dire parallèles, de ce que devraient apprendre les enfants
tout
aujourd'hui. Alors, par exemple, sur un programme de 6e, qu'est-ce qu'ils apprennent dans votre manuel?
Ben, au moins, moi, je commence par l'Égypte, parce qu'ils ont voulu remettre les Assyriens et les Chaldéens au même niveau que l'Égypte, alors que moi, je me souviens, quand je rentrais en 6e, dans les années 60, c'était fascinant, cette civilisation égyptienne qui en est plein la vue. L'égyptologie est née grâce à Champollion. Mmh. Là, qu'est-ce qu'on a besoin d'aller en Assyrie et en Chaldée? Vous voyez, ils sont et du coup, la partie consacrée à Ramsès et à Cléopâtre est réduite comme une peau de chagrin. Ils ont fait ça même pour Louis XIV, même pour Napoléon. On apprend pour Louis XIV, il y a 6 pages aujourd'hui, dont 2 sur le manuel. Il y en avait 100. Il y avait 100 pages dans le Maléus
Isaac. Sur Sumer, etc. Voilà. Et je trouve pas ça absurde, parce que c'est là qu'est née quand même
mais
3300
dans,
l'écriture.
Sixième,
donc vu, c'est pas,
quand on dit
c'est
que
pas absurde. Oui, mais
aujourd'hui, 52% des élèves qui rentrent en 6e ne savent pas déchiffrer un texte de 15 lignes. Donc il faut replacer dans le contexte actuel. Les enfants qui savent ni lire ni écrire, on ne va pas leur apprendre Sumer.
En quelle année, selon vous, a commencé la Révolution française? C'est le sondage, là, OpinionWay, auprès des 16-24 ans. 54% de mauvaises réponses. Le mur de Berlin est tombé en quelle année? 40% de mauvaises réponses.
Hitler 60%. 60% de mauvaises réponses, je crois.
40 plus 11. Alors, c'est quoi le 11? C'est ne sait pas. Bon, alors, ça, on va compter, oui. Sinon, c'est 51, voilà. Etc. Et on peut en citer plein, comme ça. Et sur l'histoire contemporaine, c'est-à-dire l'histoire du XXe siècle, pourquoi est-ce qu'il y a autant de lacunes? D'abord, c'est ce qui est le plus traité, puisqu'on sait que les jeunes maintenant regardent les écrans, les séries, machin, dans les séries Netflix, dans la fiction actuelle. Et aujourd'hui, dans les programmes scolaires, quand on arrive dans les classes supérieures, c'est quand même ce sur quoi on insiste. Alors pourquoi ils ne savent pas?
De la même manière que l'orthographe aujourd'hui est dévalorisée, considérée comme sans intérêt.
Parce qu'il y a les correcteurs. Moi, j'ai eu une élève un jour dans une école de journalisme qui m'a dit « Mais pourquoi, de toute façon, on a les correcteurs d'orthographe ?» Ben, elle est sortie de la classe.
Oui,
hein,
puis se considérer comme quelque chose de finalement bourgeois et sans intérêt. Et de la même manière, le fait de savoir précisément les dates est considéré comme une espèce de coquetterie bourgeoise et sans intérêt. Et la plupart du temps, on ne voit pas. Après, il y a un deuxième aspect qui me paraît plus important. Quand vous voyez qu'il y a 19% des jeunes qui ne considèrent pas le génocide contre les Juifs comme une réalité historique incontestable...
Ah, mais ça, c'est parce qu'il y a des...
Ça, c'est très intéressant.
Des vidéos extrêmement dangereuses.
Oui, il y a ça. Et ça rejoint le fait qu'ils sont 45% aujourd'hui à se renseigner d'abord sur les réseaux sociaux, avant toute autre chose. Et il y a aussi, plus largement, cette idée que et quelque part, on est puni par une perspective infatuée, c'est-à-dire qu'on a voulu absolument transformer en spécialiste de l'historiographie les plus jeunes. Et résultat, il y a une vengeance du système. Pourquoi? Parce qu'à force de montrer que tout est construit, qu'après tout, ça se discute, que le début de la Révolution française, c'est peut-être pas quand on dit, que la fin, c'est peut-être pas non plus quand on disait, et que d'ailleurs, il y a des textes qui montrent le contraire, ça donne un sentiment de suspicion généralisée, et on en arrive à des idées assez vagues, et finalement, un peu prêtes à croire tout.
Et
dans
alors,
tous les sens.
Tout à fait. Ma grande thèse, c'est ça. C'est qu'on a une lecture uniquement culpabilisante aujourd'hui en France de notre histoire. Même pire que culpabilisante, on a une histoire criminalisante. C'est-à-dire qu'il explique aux petits, aux jeunes élèves, que les Français ont tous été des esclavagistes au XVIIIe siècle, d'horribles colonialistes au XIXe, et tous des collabos, on a la preuve dans le sondage dont on parlait tout à l'heure, au XXe siècle. Et cette vision négative qui nous vient effectivement de l'après-68, qui rejaillit aussi dans le wokisme et dans la cancel culture aujourd'hui, vous savez, tout déconstruire, tout détruire, on en est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne reste plus rien. Ils ne savent même pas par quoi on va remplacer ces bases solides. Ernest Lavis avait une méthode pédagogique très simple, c'était brique par brique, en apprenant par cœur des listes de rois de Louis VII, le jeune, Louis
VIII,
le lion.
Comme des tables d'addition ou de multiplication.
On arrivait à construire la profondeur du temps, parce qu'aujourd'hui, vous avez vu dans l'interview tout à l'heure, ils n'ont aucune profondeur, aucune mémoire collective.
Mais est-ce qu'ils sont sauvables, ceux-là, là? Ceux qui ils ont 17-18 ans, là.
Le grand drame, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, moi qui ai été prof en banlieue nord à Cergy-Saint-Christophe, je sentais, même si j'ai démissionné il y a quand même 15 ans, je sentais qu'ils demandaient qu'une seule chose, c'est à aimer la France. Et malheureusement, on ne leur donnait pas la France à aimer. Dans ces programmes où, effectivement, la colonisation française en particulier est décrite, on voit les conséquences en Afrique tous les jours, au Maghreb tous les jours, comme la pire, un génocide. Mais même notre président
Dimitri,
a dit que c'était un génocide.
Il y a quand même deux aspects. Il y a un aspect idéologique, c'est clair,
pédagogique.
C'est clair que l'histoire a toujours été un enjeu politique. Il faut bien voir que l'histoire de la Troisième République que vous chérissez tant, elle a été faite avec une perspective politique très claire, qui était d'ancrer la République et de préparer la revanche face à l'Allemagne. Donc la perspective, elle était très claire. Il y a toujours une perspective politique, et il y en a encore une aujourd'hui, et c'est bien normal. Mais aujourd'hui, on se noie pour des raisons pédagogiques, on se noie aujourd'hui dans des approches incompréhensible pour les enfants et qui nourrissent une espèce de suspicion généralisée, de relativisme.
C'est ça, on se méfie.
Au lieu de rendre ça sexy,
intéressant, ouais. Vous allez apprendre des choses et vous allez rentrer dans la civilisation, on met des barrières. Ben voilà, on n'y arrivera pas. Monsieur le ministre, Madame la ministre de l'Éducation et Monsieur le Premier ministre, entendez donc nos spécialistes et merci d'être venus. Anne Coffinier et Dimitri Casali. On va lire vos livres, bien sûr.